Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, vous proposent 9 documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. La plus vieille faculté de médecine du monde, un documentaire proposé par Radio Campus Montpellier.
La faculté de médecine de Montpellier, créée en 1220, est la plus ancienne faculté de médecine en activité du monde. Olim Cous Nunc Monspelliensis Hippocrates est sa devise, qui met en avant la figure d'Hippocrate, le père de la médecine. Mais pourquoi avoir choisi Montpellier comme ville de science? Commémorer la mémoire de cette faculté est d'une importance capitale. Le professeur Gérald Schank, anesthésiste réanimateur au CHU Saint-Éloi, porte-parole de l'association des 800 ans de la faculté de médecine, et le professeur Thierry Lavabo-Bertrand, hématologue, docteur en histoire, vice-doyen de la faculté de Montpellier et président du comité d'organisation des 800 ans, ont tous deux répondu à nos questions. La faculté de médecine à Montpellier, la plus vieille fac du monde, Olim Cous Nunc Monspelliensis Hippocrates, un magazine proposé et réalisé par Tom Martinez et Océane Roy. Le choix de la ville de Montpellier. Quel autre grand lieu de l'apprentissage de la médecine dans le monde en 1220?
Lorsque le cardinal Conrad donc, signe les statuts, c'est qu'il y a déjà à Montpellier une collectivité médicale, une communauté médicale de maîtres et d'étudiants qui est déjà extrêmement développée. Notamment un certain nombre de maîtres qui ont été formés à Salerne. Également à proximité, pas mal de médecins juifs qui circulent un peu tout autour du pourtour méditerranéen et qui véhiculent notamment la médecine telle qu'elle se pratique dans le monde arabe et qui aident à la traduction aussi des ouvrages de l'arabe en latin. Et tout ceci donc fait qu'à Montpellier, en 1220, il y a une communauté importante, et une communauté d'ailleurs qui s'était déjà vue reconnaître une certaine liberté par l'édit du seigneur de Montpellier, Guillain VIII, en 1180, donc 40 ans avant, qui avait décrété qu'il laisserait à l'avenir totalement libre l'enseignement et la pratique de la médecine. Autrement dit, on a un certain glissement qui se fait entre 1180 et 1220. C'est-à-dire qu'en 1180, tout le monde peut venir étudier à Montpellier. Et en fait, Guillain VIII avait pris cet édit justement pour attirer les médecins à Montpellier et faire qu'il y ait le maximum de gens qui viennent. Et en 1220, on est sur quelque chose qui est une perspective différente. C'est-à-dire que l'Église dit « je délivre le diplôme et je le reconnais » et ce diplôme est une garantie d'une compétence, d'un cursus, etc. Donc on est sur un concept moderne, en quelque sorte, d'université. Outre le fait qu'à Montpellier, il y avait une communauté médicale importante, un des éléments de choix importants, c'est qu'il ne faut pas oublier que le cardinal Conrad est en Languedoc pour combattre le catharisme. Et qu'à cette époque, Montpellier se retrouve un peu au centre de la bascule de l'Occident. C'est-à-dire qu'on sent bien que tout ce qui est la partie orientale de la Méditerranée n'est pas sûr du tout et va basculer, ce qui va se passer dans les décennies qui suivent. Que par contre, l'Espagne a bien démarré la Reconquista, donc finalement la poussée des royaumes chrétiens en Espagne est importante. Et Montpellier se retrouve donc dans le diocèse de Maguelone, une terre qui finalement est toujours restée proche et fidèle du Saint-Siège, du pape. Et donc le pape y voit un peu une sorte de tête de pont dans une région qui est un peu au carrefour des nations qui sont en train de se constituer, entre la France, l'Aragon, les États qui dépendent du Saint-Empire, qui ne sont pas très loin, qui sont de l'autre côté du Rhône. Donc finalement, un peu dans une zone qui a toujours été fidèle au pape et qui est finalement, même s'il y a beaucoup de bouleversements politiques à l'époque, qui est, on pourrait dire, moins anarchique que ne l'est l'Italie. Il ne faut pas oublier que, quelques années plus tard, au début du XIVe siècle, eh bien, les papes vont venir s'installer à Avignon, certes, parce que la puissance du roi de France les y pousse, mais aussi parce que l'état politique de l'Italie est tel qu'ils ne peuvent plus résider à Rome.
Montpellier, c'est une ville nouvelle, beaucoup plus nouvelle que Nîmes, que Béziers, que Lodève. C'est une ville qui est créée en l'an 1000 et qui va surfer sur cette révolution ensuite du long XIIe siècle et qui va donc se développer à vitesse extrêmement accélérée, peut-être déjà parce qu'elle est nouvelle, toute nouvelle, et qu'elle a tout pour se construire, bénéficiant de cette révolution sociétale. Elle est idéalement située en plus, donc une position géographique idéale dans un contexte de révolution sociétale idéale. Il n'y a pas que ça qui explique le fait que Montpellier va se développer. Ça, c'est le point le plus évident, la situation historique, la situation géographique. Mais il y a deux autres points très importants. C'est un, le fait que Montpellier est entouré d'une garrigue aux senteurs fabuleuses. Et ça, les écrits des voyageurs de l'époque qui traversent l'Europe, quand ils arrivent à Montpellier, ils disent « Oh là là, c'est quoi cette végétation ? C'est aride, c'est sec, c'est pas beau, c'est par rapport à nos forêts humides d'Allemagne, de Suisse, etc. Mais qu'est-ce que ça sent bon ?» Eh bien, cet écosystème fabuleux va être à l'origine de toutes les plantes médicinales, mais aussi des parfums, et Montpellier sera la ville de la pharmacie, mais aussi de la parfumerie. Donc on a tout pour créer une faculté de médecine en termes d'ingrédients de plantes. Et le deuxième élément qui est important à Montpellier, qui se distingue des autres villes, ça va être les seigneurs de Montpellier, les Guillemes, qui sont des seigneurs très éduqués, et qui auront une vision pour la ville, qui est d'accepter que tout le monde s'y installe et partage les connaissances. Donc on aura les ingrédients pour faire des plantes et les connaissances pour développer la médecine.
L'évolution des bâtiments, 800 années de changement.
Alors le bâtiment, il y a la principale modification, enfin il y a deux grandes modifications qui se font. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un bâtiment qui était un palais épiscopal, donc il n'était pas un lieu d'enseignement, donc il manquait notamment un amphithéâtre. Et l'amphithéâtre d'anatomie se rabâtit grâce aux libéralités de Chaptal. Chaptal, le chimiste Chaptal, qui était lui aussi un lausérien, avait fait ses études à Montpellier au 18e et ses études de médecine. Il était ensuite devenu chimiste, il avait fait des usines de chimie, notamment dans le quartier Chaptal d'aujourd'hui, notamment l'usine de la paille. Et il était devenu, en 1800, ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, ça correspond aujourd'hui à ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Santé. Donc c'était quand même un gros ministère. Et il va rester très attaché à Montpellier. Et il va donner des fonds, notamment pour bâtir cet amphithéâtre d'anatomie, également pour bâtir l'orangerie du Jardin des Plantes, qui date de la même époque et qui a le même architecte, qui sera donc bâti à ce moment-là. Donc ça, c'est la première grande modification architecturale, ce Theatrum Anatomicum, comme nous disons, cet amphithéâtre d'anatomie, qui est un très beau bâtiment. Et puis, l'autre point, c'est l'extension vers le boulevard Henri IV. En effet, toute cette zone-là était autrefois occupée par la commune clôture, donc par les remparts de Montpellier, si vous voulez. Et lorsqu'on abat les remparts, ça dégage évidemment une place importante. Et cette place permet de bâtir tout le corps de bâtiment qui se trouve sur le boulevard Henri IV, que l'on raccorde à l'ancien bâtiment, et avec, on voit très bien qu'architecturalement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc toute la façade de la faculté de médecine sur le boulevard Henri IV date en fait du milieu du XIXe siècle. Et dans ce bâtiment, on va pouvoir loger notamment le musée d'anatomie.
Une devise emblématique, visible dans la salle des actes du bâtiment historique, au-dessus du buste d'Hippocrate, l'importance de cette figure historique.
Voilà, alors ça c'est la devise qu'effectivement l'école se donne en 1795, donc juste au sortir de la Révolution. Olympus nunc Monspelliensis Hippocrates, ça veut dire Hippocrate était autrefois de Cos, il est maintenant de Montpellier. Cos, c'est la ville où est né Hippocrate, fait que c'est une île qui est juste au regard des côtes turques actuellement. Et donc c'est de dire, Hippocrate donc était autrefois de Cos, mais aujourd'hui, toute la pensée d'Hippocrate, toute l'importance d'Hippocrate, toute la façon de concevoir la médecine qu'avait Hippocrate, c'est Montpellier qui l'incarne. Alors c'est évidemment très orgueilleux comme devise, mais ça veut dire finalement Montpellier est maintenant le centre mondial de la médecine.
la symbolique hippocratique, elle est très présente à la faculté de médecine de Montpellier, en plus d'une dizaine d'endroits dans la faculté. Et on parle de cette devise qui est dans la salle des actes au-dessus du buste d'Hippocrate, hein, qui est un buste antique, hein, qui date de 2000 ans, offert effectivement, alors pas par l'empereur, mais par le consul. Il n'était pas encore empereur à ce moment-là, Bonaparte. Mais on est déjà accueilli par un symbole hippocratique dès qu'on rentre dans cette fac, puisque vous savez qu'il y a les deux statues qui encadrent la grande porte. Et à droite de la statue de droite, il y a un cadran solaire. Et il y a quelque chose décrit sur ce cadran solaire, c'est techné macré, c'est-à-dire l'art est long, qui est le premier aphorisme d'Hippocrate. On a également le caducée, on a des caducées partout, qui sont des bâtons d'Asclépios. Et Hippocrate était un asclépiade, hein, il descendait de la grande tradition des asclépiades, qui étaient ces familles de médecins qui descendaient d'Asclépios, c'est-à-dire le dieu de la médecine, tout simplement. Et Hippocrate donc marque avec ce caducée son origine à Asclépios, mais il va rompre la tradition d'une médecine magique pour créer une médecine qui repose sur l'observation et qui va ne cesser de se réinventer. Donc, c'est pour ça que la médecine d'il y a 2000 ans n'est pas la médecine d'aujourd'hui et change tout le temps. Et ces symboles hippocratiques, ils sont très présents à la fac de Montpellier parce que l'enseignement, longtemps, a reposé sur le corpus hippocratique, c'est-à-dire cet ensemble de textes. C'est la seule source qu'on avait à l'époque en termes de sciences médicales. Pendant tout le Moyen-Âge et puis une bonne partie de la Renaissance jusqu'à l'époque classique, on étudiera les textes d'Hippocrate. Et c'est pourquoi Montpellier comme Salerne, où l'enseignement était identique à Salerne, vont prendre en fait la dénomination de cité d'Hippocrate. Et c'est une reconnaissance aux origines de l'enseignement. Alors, on pouvait me poser la même question qu'au début, c'était quoi la médecine à l'époque, hein. Donc, j'avais répondu avec il y a la médecine académique, mais qui était peu développée avant que Montpellier et d'autres villes en Europe explosent. Comme à Salerne, il y avait aussi une médecine comme maintenant, une médecine familiale, une médecine de rebouteux, etc. Mais on peut poser la question, qu'apportait réellement la médecine d'Hippocrate ? Est-ce que ça servait à quelque chose ? Moi, je suis réanimateur, je travaille dans le service qui a le plus de dispositifs high-tech actuellement créés par l'homme pour soigner l'homme. Et quand on parle des saignées d'antan, ou des humeurs, vous savez, la théorie des humeurs, on peut imaginer que la médecine ne servait à rien à l'époque d'Hippocrate et qu'on l'a enseignée pendant très longtemps au Moyen-Âge et à la Renaissance et que ça ne servait à rien. Je suis de plus en plus persuadé que le corpus hippocratique détient 95% de la santé humaine. Et dans ce corpus hippocratique, il y a la notion d'équilibre physiologique, de régulation du corps, que quand le patient est malade, c'est pas le médecin qui guérit le patient. Le médecin, il intervient comme médiateur pour aider le corps à retrouver l'équilibre. Il y a la notion d'harmonie. Et l'harmonie avec les humeurs, c'est aussi le tempérament, la personnalité. Il faut que les personnes qui sont un peu trop énergiques, un peu trop stressées, se calment. Les lymphatiques, il faut qu'ils soient un peu plus portés vers l'activité physique. C'est la conception de l'homme dans son environnement, incluant la famille. Et Hippocrate va suggérer de parler avec la famille, parce que la famille peut nous aider à faire un diagnostic, mais aussi à s'occuper du patient. Et ensuite, Hippocrate, il dit, vous sortez dehors, vous regardez l'environnement, parce que le patient, il dort, il vit dans une maison qui est entourée d'un environnement, et cet environnement peut aussi expliquer la cause de sa maladie. Donc c'est l'homme dans son milieu, incluant la famille, mais aussi l'environnement. Donc c'est presque les prémices du concept actuel de One Health. Donc ça va très loin, et puis bien entendu, il y a toute la déontologie, l'éthique, dire la vérité au patient, ne pas lui dire qu'on va le guérir alors qu'il n'a pas de chance, le secret médical, on terrasse ce qu'on a vu à l'intérieur des chaumières, etc. Et Hippocrate a réellement posé la base de la médecine moderne en remettant le médecin à sa place, c'est-à-dire pas un héros, mais un médiateur qui va aider le corps à se réparer en tenant compte également de tout le monde, c'est-à-dire de la famille, de l'environnement, dans un respect de règles éthiques, donc d'humanisme finalement. Donc c'est majeur finalement, Hippocrate.
L'esprit humaniste, un symbole important pour Montpellier.
Alors je dirais que l'humanisme médical, l'humanisme en général, vient même avant les Lumières. Les Lumières sont une forme particulière d'humanisme. Ce qui caractérise assez vite l'école de Montpellier, du point de vue médical, c'est la conception extrêmement large qu'elle se fait de la médecine. C'est-à-dire qu'on ne considère pas simplement, je dirais, l'art mécanique médical, mais vraiment la totalité de l'homme et la totalité de l'homme dans son milieu, d'où l'importance qui est mise sur les sciences naturelles, l'importance qui est mise sur la botanique notamment, qui ne sert pas simplement à trouver les bonnes plantes pour les bonnes maladies, mais vraiment toute une philosophie finalement de l'homme dans la nature. Et tout ceci donc est quelque chose qui deviendra de plus en plus caractéristique de l'enseignement de Montpellier. Alors ça se concrétisera notamment un peu plus tard, alors au XVIe siècle, avec l'humanisme du XVIe siècle et notamment le personnage de Rabelais, parce qu'il ne faut pas oublier que Rabelais est venu s'inscrire comme étudiant en médecine en 1530 et qu'il y repassera pour passer sa thèse en 1537 et que l'on retrouve dans l'œuvre de Rabelais beaucoup de souvenirs de sa vie montpelliéraine, sa vie étudiantine montpelliéraine. Mais que cet humanisme va aussi prendre au XVIIIe siècle une forme un petit peu particulière qu'on appellera le vitalisme. Alors qu'est-ce que c'est que le vitalisme? Une grande, grande philosophie, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais c'est, disons que, c'est de dire, même si on n'envisage pas l'être vivant d'un point de vue métaphysique, les lois de la vie vont au-delà des simples lois de la matière. Alors ça ne veut pas dire que la vie échappe à la physique et à la chimie. Ça veut dire que les organisations vivantes ont un certain nombre de principes qui leur est spécifique et qui font l'objet d'une science spécifique. Et le mot de biologie, qui aujourd'hui est évidemment très répandu, ne sera créé qu'en 1802. Donc, en quelque sorte, le vitalisme est un peu une préfiguration du concept de biologie en tant que science spécifique des êtres vivants. Et alors, évidemment, l'évolution du vitalisme se fera à Montpellier sous une forme, notamment au XIXe siècle, un peu dogmatique. On parlera de vitalisme philosophique, on parlera de choses qui sont un peu décalées par rapport à la science du XIXe. Mais aujourd'hui, on redécouvre que, finalement, cette attitude très, très large, très ouverte, avait une fécondité propre qu'au XIXe, on n'a peut-être pas tellement perçu, ou on a constaté, ou on a considéré que tout ce vitalisme un peu dogmatique était complètement en marge du progrès qui se faisait, c'est-à-dire Claude Bernard, Magendie, Pasteur, en fait, tout ce que le XIXe a apporté d'immense dans la connaissance et dans le traitement de l'être vivant. Mais il est certain que les auteurs montpelliérains ont eu quelques intuitions qui allaient peut-être à l'époque encore de courant et qui étaient finalement assez novatrices.
Factuellement, il y a eu un partage de toutes ces cultures, puisque les écrits, comme vous le disiez, hein, de la Grèce antique, Hippocrate jusqu'à Galien, ont été perdus en Europe, majoritairement à partir du Moyen-Âge. Et ces écrits en grec ancien ont été sauvegardés après traduction dans une langue qui est... Il y a eu plusieurs traductions. Hein. D'abord, le syriaque est un dialecte araméen, la langue du Christ. Puis ensuite en perse, en arabe et en hébreu. Et c'est ensuite que ça a été traduit en latin. On n'a que rarement eu des traductions directes du grec au latin. On a eu des traductions par de multiples langages. Et donc forcément, À partir du moment où on a eu des textes traduits en latin à Montpellier au Moyen-Âge, on a eu un brassage de toutes les autres cultures qui ont permis la sauvegarde, mais aussi l'update des textes initiaux, puisque les Arabes, les Perses, ont fait des observations, ont annoté, ont commenté les écrits originaux et ont amélioré la science médicale. Bien entendu aussi, il y a eu beaucoup de Juifs en Languedoc, et il y a eu aussi, bien entendu, des chrétiens, et il y a eu des liens entre eux, notamment à la fin du XIIIe siècle, où des Juifs ont traduit avec des chrétiens des textes arabes, hein, en faisant arabe-hébreu, occitan-occitan latin, exactement. Donc des traductions dites à quatre mains, il y a eu des échanges fondamentaux. Bien sûr, il y a le Mikvé aussi avec le quartier de la Barallerie à Montpellier, qui montre la présence très ancienne des Juifs à Montpellier. Et le Mikvé, qui est un bain rituel, et qui dit bain rituel, dit également hygiène du corps. Donc il y a eu un brassage de ces cultures de manière factuelle. Est-ce que ça s'est fait de manière pacifique? Oui, parce qu'il y a eu un travail entre Juifs et chrétiens qui lui aussi est factuel. Est-ce que politiquement c'était un humanisme affiché, revendiqué? Je ne crois pas qu'on ait des écrits qui puissent l'affirmer, à part cet édit du seigneur Guillaume qui en 1181 disait que quiconque, quelle que soit son origine, pouvait tenir une école de médecine. C'était quand même une déclaration d'ouverture d'esprit et de tolérance manifeste.
Célébrer les 800 ans de la faculté de médecine, quelle importance de commémorer la mémoire?
On fête les 800 ans et en retravaillant cette histoire-là, en mettant tout sur la table avec des experts universitaires, des historiens spécialistes de l'histoire des universités, on ne veut surtout pas dire on est la plus ancienne université de médecine du monde, c'est youpi, c'est une médaille, etc. C'est pas ça l'intérêt, on serait la deuxième, la troisième, la quatrième, que ce serait intéressant de savoir également pourquoi et dans quel contexte. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport Salerne et Montpellier, puisque Montpellier n'aurait pas pu se faire sans Salerne, mais que Salerne n'avait pas les statuts universitaires quand Montpellier l'a eu. Montpellier a eu les statuts universitaires pour des raisons géopolitiques qu'on peut développer par ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'avoir organisé avec l'appui officiel du pape une université avec des statuts très stricts et solides qui permettent le fonctionnement de cette communauté d'étudiants et d'enseignants, forte tête dans chaque communauté, et oh là, on a un ensemble de lois qui évite les conflits et qui donne un cadre juridique à la résolution des conflits, ça a permis la pérennité de cet enseignement de la médecine universitaire officielle à Montpellier pendant 800 ans. Salerne n'a pas eu ces statuts-là, ça pourrait être une raison de son déclin ultérieur.
Alors pourquoi les fêter? Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez unique, et donc déjà en soi ça méritait de l'être, et surtout qu'au cours du temps, au cours des âges, la faculté de médecine de Montpellier a une place importante dans l'évolution générale de la médecine. Mais ce qu'il faudrait justement éviter, c'est de dire, bon voilà, il y a le passé prestigieux, puis maintenant on vit au jour le jour sur les acquis d'aujourd'hui. Or, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment une symbiose et une synergie qui se fait tout au long de l'histoire. Pourquoi est-ce que Montpellier est connu jusque dans le monde entier? Montpellier est associé à l'idée de médecine. Donc, cette idée-là favorise indiscutablement l'essor, les implantations d'équipes et finalement le caractère logique d'un développement scientifique médical avec les moyens, un investissement avec les moyens d'aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a eu et il y a actuellement sur Montpellier donc, des équipes de grande valeur, reconnues, etc., mais qui poursuivent finalement une histoire qui, à chaque époque, a été non pas une célébration du passé, mais l'intégration de ce passé dans la science et la médecine de ce moment-là. Et donc, on peut considérer que que l'histoire se maintient. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire est pour nous un atout, mais aussi c'est un moyen de dynamiser l'avenir. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'on a beaucoup parlé d'humanisme médical. Eh bien, nous arrivons à une époque où la vision que l'on a de la médecine, c'est à la fois une exigence de très haute technicité, de compétences, etc. Et il n'est pas question, bien entendu, de le minimiser, et Montpellier y prend toute sa place à travers un certain nombre de réalisations. On n'a pas trop le temps de s'étendre sur toutes les spécialités qui sont vraiment en pointe, mais bon, on est tout à fait dans la course. Et puis, d'un autre côté, quand on dit humanisme médical, c'est-à-dire c'est un regard porté sur la médecine qui insiste sur la dimension globale de l'homme. Et on sait très bien que nos contemporains demandent à la médecine à la fois d'être hyper performante, mais aussi de prendre en charge toute l'humanité, toute la globalité du soin, le care, comme on dit aujourd'hui, mais bien au-delà, hein, une certaine vision de l'homme. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de la tradition montpelliéraine, qui est une incitation à poursuivre sur l'avenir.
Qui dit commémoration disait aussi fête. L'idée était de prendre du plaisir à se rappeler notre histoire et en faire bénéficier le grand public. Il y a eu une commémoration le 17 août 2020, précisément le jour dit pour fêter réellement les 800 ans. On a réfléchi si on faisait une cérémonie ou pas. On a décidé d'en faire une avec des règles de distanciation, de port de masque, de solution hydroalcoolique, qui étaient des règles drastiques, car on souhaitait montrer l'exemple, nous, médecins, que la vie était possible en respectant un certain nombre de gestes barrières. On a fait cette cérémonie à l'air libre, dans la grande cour d'honneur de la faculté, entouré de bâtiments qui provoquent un brassage d'air monstrueux, donc c'était parfaitement aéré. Et on trouvait le contraste assez saisissant entre ces robes universitaires d'aspect très ancien, les lieux, hein, puisque la fac de médecine est dans ce bâtiment qui est l'ancien évêché. On avait parlé un petit peu des bâtiments, on a récupéré l'ancien évêché après la Révolution, mais ce sont des bâtiments qui ont été construits au XIVe siècle. Et le contraste avec le port du masque était pour nous un exemple à montrer qu'il fallait continuer à vivre et à porter le masque et à respecter toutes ces mesures barrières. Voilà pour le côté festif. Pour le côté intellectuel de la commémoration, encore une fois, on souhaite pas se battre pour que l'Université de médecine de Montpellier soit reconnue comme la plus ancienne du monde, sortie du contexte. C'est la plus ancienne du monde au sens juridique du terme, au Moyen-Âge. C'est une accumulation d'évolution de la science médicale d'Hippocrate jusqu'à Montpellier, en passant par Salerne, par les écoles arabes, perses. C'est tout ça qui a construit le concept d'université moderne. Et c'est important de le rappeler aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, parce qu'on avait fait ces 800 ans, on les avait imaginés depuis 3 ans, sous l'angle de l'humanisme et de ce qu'était la connaissance universitaire. Et on a tous été profondément troublés par la crise intellectuelle, scientifique, universitaire, qui a pu transparaître à travers les différents plateaux radio et télé, où certains experts ont monopolisé l'attention et où beaucoup de choses ont été déclarées dans tous les sens. Et ça nous a rappelé tout simplement cet édit de Guillem, hein, de 1881, qui disait que tout le monde pouvait ouvrir une école de médecine et raconter ce qu'il voulait. 40 ans plus tard, il y a 800 ans précisément, on est revenu sur cet édit en créant une université qui est un ensemble de lois qui va encadrer la connaissance et de manière officielle avec l'introduction d'un réel monopole de la connaissance, mais qui permet un cadre pour éviter que n'importe qui raconte n'importe quoi. Et une connaissance est validée si on l'a discutée en détail à plusieurs, et c'est pas un seul individu qui dit c'est comme ça et pas autrement. Il faut que tout soit pesé, nuancé. Et certes, on a été ébranlé par cette crise dans l'organisation des festivités, mais ça nous a rappelé combien était important de réfléchir à ce qu'était la connaissance, comment on pouvait l'enseigner et lui faire confiance, ce qu'était l'université encore plus qu'on se l'était imaginé avant de préparer ces 800 ans.
La médecine à Montpellier, ce sont des siècles d'histoire que la ville de Montpellier a tenu à célébrer à l'occasion des 800 ans de sa faculté, la plus ancienne du monde, encore en activité. Nous espérons vous avoir donné envie d'en savoir plus sur cette histoire, qui fait la fierté de notre ville. Un grand merci à nos intervenants, le professeur Gérald Schank et le professeur Thierry Lavabre-Bertrand. La plus vieille faculté du monde, Olimcous Nunc Montpelliensis Hippocrates, un magazine réalisé en collaboration avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole.
C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.